Bonjour Vincent Duclerc.
Oui, bonjour.
Le rapport de votre commission parle de responsabilités accablantes dans le rôle de la France au Rwanda. Et quelles sont les responsabilités que vous avez pu démontrer au cours de ce travail?
Alors, ces responsabilités, elles sont dans une politique qui, au départ, se décide, je dirais, de manière plutôt vertueuse. C'est effectivement réaliser les principes du sommet de la Baule de juin 90, plus de démocratisation dans les pays dits du champ, c'est les pays anciennement coloniaux, ou les pays francophones comme au Rwanda. Mais au fond, je veux dire, la France a se trouvé finalement piégée, mais piégée aussi d'une manière très volontaire par le soutien à un régime raciste, à un régime qui persécute les Tutsis, qui met en place des quotas, qui maintient des cartes d'identité ethnique. C'est le régime du président Habyarimana. Lui-même n'est pas fondamentalement un extrémiste, mais il est entouré par des extrémistes qui l'enserrent. Et la politique de la France, plutôt que de le desserrer des extrémistes, plutôt que de parier sur l'opposition démocratique qui se met en place, effectivement maintient et renforce en fait cet engrenage donc raciste qui, on le sait, je veux dire, est l'un des éléments fondamentaux donc de la préparation d'un génocide. Et ça, ce qui est terrible, c'est que la France ne le comprend pas, ne le voit pas.
Une partie de cet aveuglement, si on vous suit bien, porte sur le FPR, le Front Patriotique Rwandais, le mouvement de Paul Kagame, qui est constamment perçu comme une menace, comme un danger.
La France va, au fond, diaboliser le Front Patriotique Rwandais, qui est un mouvement de Tutsi exilés et de Hutu opposés au régime d'Habyarimana. C'est-à-dire le portrait qui est fait de ce mouvement, c'est, on parle d'Ougando Tutsi. Donc c'est ethniciser, au fond, le conflit. C'est considérer qu'il y a une négation extérieure.
Qu'est-ce qui explique cette diabolisation du FPR?
C'est l'idée qu'il faut tenir le Rwanda notamment en face de ce qui est perçu comme un espace anglo-américain. On sait qu'à l'époque, François Mitterrand est extrêmement hostile aux Américains, et donc il a une vision géopolitique, je dirais, assez surannée. Il faut effectivement diaboliser le FPR pour légitimer le soutien au président Habyarimana et le soutien finalement à une dictature.
Est-ce que finalement cette diabolisation elle est le fait de certains acteurs plus que d'autres?
Oui, alors là c'est clair que nous dans le rapport, et je vous rappelle que c'est un travail de chercheurs fondé sur les archives françaises qui ont révélé justement, c'est-à-dire font un groupe d'hommes, notamment à la présidence de la République. On a vu effectivement le rôle des chefs de l'état-major particulier, mais qui agissent sous l'autorité de François Mitterrand. On n'a pas affaire, tu sais, à des militaires factieux qui font eux-mêmes la politique. Mais il y a aussi les diplomates. Les diplomates accompagnent, au fond, cette politique qui soutient, je veux dire, un régime raciste, en dépit, je veux dire, d'un son d'alerte. Et là, on a constaté, si vous voulez, à travers les notes qui sont émises, les instructions, je veux dire, font un effondrement intellectuel, une incapacité, je veux dire, à penser la réalité rwandaise. Et là, c'est très grave.
Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, Vincent Duclerc, cet entêtement des autorités françaises?
Eh bien, je crois que c'est un mélange d'abord d'une sorte de vertige de la conquête, c'est-à-dire, voilà, le Rwanda, qui n'est pas une ancienne colonie française, apparaît comme une prise de guerre, au fond, de cette France encore ancrée dans des visions de l'Afrique néocoloniale. Il y a aussi, donc, comme je l'ai dit, je veux dire, la volonté de s'opposer, au fond, aux influences anglo-américaines. Il y a les liens personnels avec Habyarimana. Il y a l'idée aussi que, finalement, grâce aux forces spéciales qui sont déployées au Rwanda, on peut tenir un pays à peu de frais, parce que à l'époque, il y a une volonté de réduire aussi l'assistance militaire française en Afrique. À la fin 93, la France quitte le Rwanda, il n'y a plus de militaires français au Rwanda, sinon quelques assistants militaires techniques. Et donc, lorsque le génocide se déclenche en avril 1994, il n'y a pas de forces françaises au Rwanda. Donc, la France, d'une certaine manière, n'est pas impliqué dans la phase paroxystique du génocide, mais elle a contribué à renforcer en fait cette dérive raciste, ce surarmement du Rwanda. L'armée rwandaise passe de 5 000 hommes à 25 000 hommes, et effectivement, quand vous formez une armée de 25 000 hommes, vous formez aussi des miliciens. La France n'a absolument pas eu conscience en fait finalement de la gravité de sa politique, et je crois que voilà, il faut réfléchir aussi, je veux dire, au sens des actions.
Est-ce que les archives nous apprennent quelque chose sur l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion du président Habyarimana?
Alors, pas de manière certaine. On ne sait pas qui, effectivement, encore à l'heure actuelle, je veux dire, a détruit l'avion. Mais c'est vrai que les fiches de la DGSE, notamment le fait aussi que les forces armées rwandaises avaient récupéré des HS-16 et que donc était potentiellement capable de les utiliser, tend plutôt effectivement à accréditer la thèse du Hutu Power, hein, au fond de ceux qui découvraient donc Kabiyarimana risquaient finalement d'appliquer les accords d'Arusha et donc devenaient un traître à la cause donc extrémiste Hutu. Maintenant, je crois qu'il faut être très très clair. Hein. Je veux dire, un génocide se prépare de longue date et que s'il n'y avait pas eu l'attentat, il y aurait eu le génocide des Tutsis.
L'ancien super gendarme français Paul Baril a aidé le régime génocidaire. Est-ce que vous avez pu trouver des connexions avec les autorités françaises ?
Sur la question de Paul Baril, je crois que d'abord il y a une instruction judiciaire. Là, il faut effectivement qu'il y ait véritablement une enquête de police, hein, je veux dire une enquête diligentée par des juges. Hein. Nous sommes restés quand même sur le niveau de l'enquête historique. Hein. Il y a effectivement un certain nombre d'archives que nous n'avons pas, au fond, eu le temps de véritablement consulter. Mais là, il faudrait effectivement creuser du côté de la sécurité militaire, du côté de la DST. C'est à la fois des archives qu'on n'a pas eu le temps, effectivement, de consulter, hein, parce que nous avons eu aussi toutes les archives diplomatiques et militaires à consulter. Le cas Paul Baril, oui, c'est un cas, je veux dire, un peu particulier, hein, qu'il faudrait vraiment expertiser. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Paul Baril, avec sa société, s'est mis au service de la veuve du président Habyarimana. Et on sait, effectivement, la veuve du président Habyarimana n'a pas été passive, hein, alors même qu'elle était en France, donc accueillie par une volonté présidentielle de François Mitterrand, a continué à animer les réseaux extrémistes et a orchestré, en fait, le génocide entre les Tutsis.
Si on parle maintenant de l'opération turquoise, est-ce que la zone humanitaire sûre où s'est déployée Turquoise au sud-est du Rwanda était considérée par François Mitterrand comme l'embryon d'un Hutu Land face au territoire contrôlé par le FPR ?
En fait, Alain Juppé et Édouard Balladur décident de faire quelque chose. Et là, il y a effectivement une volonté tout à fait importante, hein, d'agir. Et là, une bonne foi, hein, incontestablement. Ce qu'on a pu repérer de manière assez fine, c'est qu'il y a eu une petite tentative, hein, de loger, au fond, dans cette opération humanitaire, une opération militaire d'action contre le FPR pour pas tellement créer un Hutu Land, mais tenter de maintenir une sorte d'équilibre des parties pour continuer les accords d'Arusha. Mais en fait, là aussi, cette idée, je veux dire, de repousser le FPR pour conserver finalement légitimité au gouvernement intérimaire qui est génocidaire.
Et permettre son retour finalement d'une certaine
voilà,
manière.
Voilà, et je veux dire, se heurte à la réalité. La réalité, c'est un génocide qu'il faut arrêter. Et là, il y a des hésitations. Mais c'est vrai quand même que l'opération turquoise, l'opération qui permet quand même de sauver un certain nombre de Tutsis, je veux dire, il y a eu un flottement, c'est incontestable, mais qui était lié à la pression des bellicistes autour de François Mitterrand, Édouard Balladur, Alain Juppé, je veux dire, et le général Lafourcade, qui est le commandant de l'opération, et tous les militaires sur place. Je veux dire, se rendent très bien compte que, je veux dire, c'est pas des massacres, je veux dire, interethniques, c'est qu'il y a un génocide, et qu'à un moment donné, il faut effectivement sauver les Tutsis. L'opération turquoise n'est en rien, si vous voulez, une opération de protection des génocidaires.
Vous nous expliquez dans ce rapport que la France n'a pas été complice de la préparation et de l'exécution du génocide, mais n'a-t-elle pas au moins été complice de la fuite des génocidaires ?
C'est une question que nous avons effectivement examinée, hein, très clairement. La France a été face à cette présence des génocidaires dans la zone turquoise, les a, au fond, neutralisés en les démettant de leurs fonctions, s'est employé, je veux dire, à les repousser, mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de mandat. C'est-à-dire les Nations Unies n'ont pas encore créé le TPIR, la France n'était pas en mesure de les arrêter. C'est vrai que la France aurait pu davantage peut-être les neutraliser par l'arrestation, mais arrêter, je veux dire, des Rwandais dans une zone où il y a beaucoup de génocidaires, la France a aussi, à travers l'opération turquoise, voilà, une nécessité d'assurer la sécurité des troupes. Hein. On est quand même peu de temps après le massacre des 30 Marines de Somalie. Donc là, effectivement, il y a eu des choix, mais c'est des choix qui n'ont pas visé, si vous voulez, à protéger les génocidaires.
Merci Vincent Duclerc.
Merci à vous.